J'aimerais avec vous apporter le message de la parole concernant l'Église, reprendre le chemin de l'Église. C'est ce que nous faisons ce matin avec cette ouverture du Temple à nouveau. L'Église est une communauté locale et une communauté mondiale ou universelle qui va un peu mieux avec le terme qui couvre tous les temps depuis Jésus. Tous ceux qui rentrent dans le corps de Christ font partie de l'Église universelle. Ce que nous voulons, c'est qu'en tant qu'Église, Église locale, nous voulons partager le projet que Dieu a pour nous, parce que Dieu a un projet sur le plan individuel pour chacun de nous, mais aussi pour une communauté comme la nôtre, parce que le Seigneur veut nous utiliser pour être des ambassadeurs de son royaume, à l'endroit où Dieu nous a appelés, c'est-à-dire ici et maintenant. En effet, Dieu compte sur son Église pour manifester son royaume sur la terre. Nous disons, Seigneur, que ton royaume vienne, mais il vient au travers de l'Église. Il est venu au travers de Jésus, qui a envoyé son Esprit en nous, et nous sommes en lien avec son Esprit, et donc nous faisons un avec cet Esprit pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous avons un privilège, donc, mais aussi une responsabilité. Et l'Église primitive, donc dans les Actes des apôtres, on voit que les païens ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ces communautés de l'époque, et ils disaient « Regardez comme ils s'aiment ». C'est l'amour. Aujourd'hui, on parle de violence, de haine, il y a des révoltes contre toute l'autorité, contre la justice, etc. Mais dans la communauté, dans l'Église, il faut que les gens remarquent l'amour. L'amour de Jésus dans nos cœurs, qui se manifeste concrètement. Mais l'Église n'a pas qu'un côté spirituel de communion avec Dieu, mais aussi c'est une société, donc une association d'êtres humains, avec leurs imperfections. Nous avons tous des imperfections, ou tout au moins des limitations aussi, et nous devons collaborer ensemble, collaborer vers un même but, avec des mêmes valeurs, celles du royaume de Dieu. Et on a travaillé, même dans ce confinement, justement, à continuer à travailler ensemble, et que nous pouvons faire de manière plus libre maintenant. C'est une société avec des serviteurs, leaders. Ils ne sont pas leaders, serviteurs, ils sont serviteurs, leaders. Serviteurs de Dieu, serviteurs des autres, mais aussi leaders. Ils doivent entraîner ceux qui gouvernent, doivent entraîner les autres. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a donné des leaders et qu'il continue à en préparer, à donner donc la nouvelle vague que j'intitule et des mots comme ça qui viennent pas les quadras qui sont ceux dans la quarantaine entre 30 et 50 ans qui vont forcément remplacer les retraités dont je fais partie. Mais pas retraités du royaume, hein. On reste jusqu'à notre mort en activité pour le Seigneur. Nous vivons tous une aventure de foi au milieu d'une société qui s'en désintéresse parce qu'elle n'a pas la foi. Et donc il nous faut nous encourager ensemble dans cette aventure avec une vision commune. Et c'est le projet qui est conduit par le GARVI. Le GARVI, je rappelle, c'est le groupe d'accompagnement de la revue de la vision de l'Église, et qui a été un peu stoppé pendant cette période-là, mais vous avez tous contribué, je crois savoir. Par contre, je n'ai aucun retour, parce que la synthèse n'a pas été faite, mais je sais que Laurence, même Pierre-André en Autriche, participe beaucoup à faire la synthèse, et je n'ai pas les objectifs, mais je crois qu'à la rentrée, il y aura cette synthèse. Donc, que je pourrais voir aussi. Donc, je ne parle pas à partir de ce que vous avez produit, hein, mais je parle à partir de la parole. Et je voudrais rappeler ce matin quelles sont les dimensions de cette Église que nous voulons vivre et les défis qui lui sont rattachés, ainsi que la crise que nous vivons. Nous vivons véritablement une crise au niveau des Églises évangéliques. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Le confinement nous a placés dans une situation anormale de distanciation. Là, maintenant, nous sommes dans le présentiel, nous étions distancés les uns des autres. Or, l'Église est une communauté, on doit se rencontrer. C'est un peu comme si un match de foot, vous voyez, tous les matchs de foot sont arrêtés, parce que, voilà, match de foot virtuel, bien sûr, ça existe, c'est baby-foot ou des machins comme ça, mais ça n'a pas du tout la chaleur, ça n'a pas du tout l'équivalent d'un match qui se produit avec du public, etc. Ben, c'est pareil, l'Église a besoin d'avoir une proximité physique. Et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à prendre voilà, le courage, quand ils l'auront, de nous rejoindre. Car l'Église répond à des règles définies dans la parole. Dans Actes 2, 42, hein, vous pouvez reprendre ce passage, il est dit qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, dans le temple de Jérusalem, et ils avaient tout en commun. Voyez-vous, il y a cette proximité d'être en commun. Une église, selon le Nouveau Testament, est un rassemblement local, à l'instar d'une petite nation. Une nation, ça rejoint un groupe de personnes qui font partie d'un élément qui est localisé avec des frontières, etc. Là, c'est beaucoup plus petit, puisque localement, on a nous aussi un périmètre. Un périmètre en général que je donne, c'est entre Poissy et Mantes. On couvre un peu cette région des personnes qui viennent nous rejoindre. Après, il y a d'autres communautés locales. Ce confinement nous a privés de cette proximité naturelle et a conduit à un repli sur nous-mêmes, par la force des choses, qui parfois peut produire des traumatismes. Ma sœur, par exemple, a très très mal vécu ce confinement parce qu'elle toute sa vie était prof, et elle était très agressée par des élèves. Et il s'est retrouvé un jour dans un asile psychiatrique. Et là, il avait peur d'être à nouveau agressé par ce confinement. Et il a demandé à la gendarmerie de lui donner une autorisation de voir ses petits-enfants. Et après, ça allait beaucoup mieux. Voyez-vous, il y a des causes aussi de dépression, de choses comme ça, qui sont liées au confinement. Tous ceux qui ont suivi, je pense à Isabelle, qui n'est pas là ce matin, mais qui disait, surtout les personnes âgées, dans les EHPAD et autres, et ils sont voilà totalement différents, ils parlent plus, ils sont muets, enfin, il y a presque plus de vie, quoi. Vie en eux, quoi, même dans les yeux, c'est horrible, quoi. Voilà. Donc Dieu a donné une dimension sociale à l'être humain, et pas qu'une dimension personnelle. Vous savez que quand Dieu a créé Adam, il a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et donc il a fait une compagne, Ève, et ensuite après les enfants, etc. Le côté virtuel ne suffit pas à notre identité communautaire. Alors revenons à l'Église. Et considérons à nouveau la question que j'ai évoquée dimanche dernier de la contradiction. Rappelez-vous, Siméon, qui attendait la venue du Messie, comme tous ceux en Israël à l'époque l'attendaient, et aujourd'hui encore, il continue à l'attendre d'ailleurs, ce Messie, eh bien, il a reçu qu'il devait aller au temple ce jour-là. Et en fait, c'est Jésus les parents avaient amené Jésus à ce moment-là dans le temple. Et là, il présente ce petit enfant, et il a cette prophétie, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Pour ceux qui veulent écouter le message, c'est celui de dimanche dernier. Je veux revenir là-dessus pour bien préciser la notion de contradiction. Contradiction est... paradoxe, ce sont deux termes qui sont très proches, mais qui sont quand même différents, et qui sont attribués à un signe aussi bien de Jésus que de l'Église. Puisque Jésus et l'Église ne sont pas séparables. Jésus, c'est la tête, l'Église, c'est le corps. Donc c'est une entité qui ne peut pas être séparée. Et nous sommes, en tant qu'Église, un signe qui provoquera la contradiction. Alors, tout d'abord, les contradictions. Les contradictions peuvent être malsaines, peuvent être donc bénéfiques et peuvent être neutres. Alors je m'explique. Elles peuvent être malsaines, c'est-à-dire mauvaises, par exemple, entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Ces contradictions-là sont malsaines parce que le royaume de ce monde est conduit par le prince de ce monde, qui est Satan. C'est lui qui a reçu le droit de diriger ce monde à cause du péché, à cause de la désobéissance de notre ancêtre, hein, d'Adam. Et nous faisons partie eh bien, de cette malédiction où le prince de ce monde dirige les choses. Et d'ailleurs, Jésus est venu pour combattre cette principauté. Mais l'ennemi a voulu le mettre dans sa poche, il n'a pas réussi. Il a voulu refaire la même chose qu'avec Adam. Et Jésus n'a pas succombé au péché parce qu'il était venu pour détruire le péché. Donc, une contradiction malsaine, c'est royaume de Dieu, royaume de ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de compromis avec le royaume de ce monde. Ensuite, la contradiction peut être bénéfique. Vous voyez, donc ça devient un peu compliqué. Malsaine, bénéfique. Alors bénéfique, elle prend le nom de paradoxe. Paradoxe, qui veut dire qu'une contradiction qui a deux termes qui s'opposent sont vrais en même temps. Alors Christian Schwartz, vous le connaissez puisque vous avez tous en principe le petit manuel de la nouvelle expérience avec Dieu. Il appelle la théonomie, donc les lois de Dieu, bipolaires, deux pôles. Alors elles sont positives tout simplement parce que Dieu a créé des paradoxes, des choses opposées, qui créent une dynamique, une énergie. Vous prenez par exemple le pôle d'une batterie. Vous avez tous une batterie dans votre voiture. Vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Bon, il n'y en a pas un qui est malsain, l'autre qui est bon. Simplement, en les mettant ensemble, vous pouvez produire de l'électricité, de l'énergie. Et même maintenant, ils font des voitures électriques qui ne marchent que à ça. Donc, vous voyez, là, la notion de paradoxe, où il y a des pôles contradictoires, hein, plus et moins, eh bien, ils sont bénéfiques, c'est un paradoxe. Et la Bible est remplie de paradoxes. Le royaume de Dieu est rempli de paradoxes. Jésus, par exemple, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Fils de l'homme, normalement, voilà, ça ne peut pas le mélanger avec Dieu, pourtant. C'est parce que, justement, si on n'accède pas à cette révélation, on ne peut pas connaître Jésus vraiment tel qu'il est, puisqu'il est venu en tant que fils de l'homme pour racheter l'humanité. Et il y a des contradictions qui sont neutres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont eschatologiques. Alors, j'utilise ce mot parce que, non pas pour faire bien, parce qu'il se trouve dans tous les manuels qui parlent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, eschatologie, eschaton veut dire la fin. C'est-à-dire qu'il y a un début, une fin. C'est-à-dire qu'il y a le temps, il y a la durée. Et nous, on se place dans la durée. L'Église se place dans la durée. L'Église a un début. Jésus, il a établi l'Église dans Matthieu 16, hein, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point. Et il y a une fin, parce que après la durée de l'Église, le temps de l'Église, eh bien, il y aura Dieu va renouveler complètement le monde. Hein. Il va enfermer Satan, le mal définitivement, et on vivra ce que tout le monde rêve, hein, où le mal n'existe plus. Oui. Donc ça, c'est la compréhension chrétienne du royaume. Et donc là, les oppositions entre le royaume est là et Jésus est là et Jésus est capable de guérir et on a des malades qui ne sont pas guéris, c'est un paradoxe. C'est que normalement, ça devrait être le cas. D'ailleurs, pendant les réveils, Michel a eu cette grâce de vivre la fin du réveil de Pentecôte en France. C'est l'Église évangélique qui a le plus été en pointe pour l'évangélisation en France. Eh bien, sur le bâtiment, à l'époque, au lieu de mettre Église protestante, ils mettaient viens et vois. Viens et vois, ça veut dire que tu rentres et tu vois des miracles. Et tu sors et tu es Voilà. Bon, ils l'ont enlevé maintenant aussi parce qu'il n'y a plus ces miracles qu'il y avait avant. Par exemple, Michel me disait, quand elle était dans son église, tous les dimanches, il y avait 5 ou 6 miracles qu'il voyait. Il voyait. Il y avait des goîtres énormes comme ça, hop, ils disparaissaient. Il y avait une personne qui n'avait plus de jambes, hop, elle se mettait à croître et à exister, etc. Vraiment des miracles comme au temps de Jésus. Hein. Bon. Je sais qu'Olivier, il aime bien, il voudrait revoir ça, même moi aussi. Tout le monde voudrait revoir ça. Hein. Mais c'est un temps de réveil qui est décidé par Dieu. Et aussi, il y a des temps de réveil aujourd'hui encore. Dans les pays musulmans, notre frère Bila, il en sait quelque chose, eh bien, Jésus, il apparaît directement à des personnes, des musulmans qui sont persécutés, qui peuvent pas se convertir, qui peuvent pas entendre l'évangile, et Jésus se manifeste directement à eux, par exemple. Vous voyez? Donc, le miracle existe toujours, mais c'est Dieu qui décide d'outrepasser les lois naturelles pour passer au miracle, hein. Mais ça change rien à l'existence de Dieu. C'est simplement que nous, on marche par la foi. Parfois, on voit. Parfois, on voit pas. Peu importe. C'est le royaume du déjà, pas encore. Le jour où Jésus va revenir, ce sera des miracles en permanence. Hein, je veux dire, on sera dans une autre dimension, d'ailleurs, que nous sommes aujourd'hui. C'est la dimension qui nous attend, comme celle que Jésus a actuellement. Donc, je reviens à la notion eschatologique, vous entendez, ceux qui ont suivi la théologie du royaume, eh bien, ils savent que c'est une théologie d'eschatologie. Donc, c'est pas bon ou mauvais, c'est simplement, aujourd'hui, on est saint et on est pécheur en même temps. Voyez-vous, les deux en même temps. C'est opposé, mais c'est en même temps. L'Église est sainte et pécheresse à la fois jusqu'au retour de Jésus. Voilà, donc, des contradictions malsaines, bénéfique et neutre. Alors, revenons à l'Église. Hein, l'Église. L'Église est paradoxale. Paradoxale veut aussi dire complexe, hein, parce que c'est plus facile de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, que de dire ah bah tiens, il y a des contradictions qui sont vraies en même temps. C'est difficile à l'être humain de raisonner comme ça. Eh bien, l'Église est d'abord un rassemblement de frères et sœurs en Christ. Et en Christ, nous sommes parfaits. C'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. Nous sommes parfaits en Christ. Quand quelqu'un vient à la nouvelle naissance, comme Jésus l'a enseigné à Nicodème, il a dit, si tu rentres dans le royaume, il faut que tu rentres par une deuxième naissance. Une naissance qui ne vient pas de tes parents, de ta mère, de ton père. Ça vient de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint nous engendre dans une nouvelle race, qui est la race parfaite des fils et des filles de Dieu. Et donc nous avons en nous un aspect de perfection en Christ. Et il faut le reconnaître, il faut l'accepter ça. Tout simplement parce que dans cette manière de faire, d'ailleurs l'apôtre Jean, ça apporte parfois des polémiques, ce verset, en disant « nous sommes parfaits, nous sommes des parfaits hein. ». C'est parce qu'il fait appel à cette contradiction, à ce paradoxe, où nous sommes parfaits en Christ, mais en même temps, nous restons imparfaits dans notre âme, dans notre être humain. Vous voyez, donc nous devons rester humains, pas décoller. Alors c'est le problème des mystiques dans toute église, que ce soit catholique, protestant, évangélique, etc. Les mystiques, ils veulent être dans la perfection. Voyez-vous, ils veulent être en communion avec Dieu et pas trop s'occuper des imperfections de la chair, etc. Voilà. Donc en fait, ils veulent s'isoler. Hein. Mais ça viendra, mais c'est pas le temps en ce moment. Nous devons être avec les humains, comme des humains, et manifester le royaume au niveau des humains, et aussi être en communion avec Dieu. C'est ce que nous faisons dans un culte. Nous voulons adorer le Seigneur en esprit, en vérité, mais aussi avoir une communion fraternelle et faire des projets sur le plan humain. C'est paradoxal. C'est un paradoxe. Et ce paradoxe, bien sûr, est difficile à analyser. C'est pour ça que j'arrête pas, et je le rappelle ce matin, de sortir d'un raisonnement dual, double, dualiste. Le raisonnement dualiste, c'est de chercher ce qui est bien, ce qui est mal, et de dire ça c'est bien et l'autre ce qui est mal. Ça n'existe pas. Il faut être dans un raisonnement qui est plus complexe. Et c'est tout le drame de l'Église. Le drame de l'Église, c'est qu'il a adopté un raisonnement grec, qui est dualiste, alors que nous ne sommes pas dans ce monde-là. C'est un monde idéal qui ne correspond pas à la réalité. La théologie du royaume, donc comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, est par nature paradoxale. Car le royaume de Dieu est total au ciel, mais il est partiel sur la terre. Il n'est pas encore complètement là. Il est là au travers des chrétiens qui font la volonté de Dieu, mais tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu, bah, vous en savez quelque chose, eh bien, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que l'Église, nous qui sommes l'Église, ne soyons pas contaminés avec cette rébellion qui est toujours là et dans laquelle nous sommes, et que le Seigneur ne veut pas nous retirer de ce monde-là. Donc, il nous faut faire attention de ne pas faire de compromis. Et c'est ça toute la difficulté de l'Église, surtout quand le réveil est parti. Quand il y a le réveil, bah, les gens y viennent. Je sais que ma belle-mère, donc la maman de Michel, elle était dans la rue Coville, à Rouen, la rue où, à l'époque du réveil, c'est avant la guerre, et elle disait à sa copine, parce qu'elle était catholique, elle disait à sa copine, viens, on va voir les fous là qui sortent. Parce que effectivement, les chrétiens qui voyaient des miracles, comme je vous le disais, à l'appel, ben, ils sortaient, ils étaient dans une autre dimension de joie et tout ça, voilà. Donc ils regardaient les fous sortir, quoi. Voilà, parce qu'elle était juste à sa fenêtre, elle les voyait sortir. Vous voyez, c'était une dimension, bien sûr, de joie extraordinaire, parce qu'ils voyaient le ciel sur la terre, quoi. Hein. Ils voyaient comme au temps de Jésus, ces miracles, etc. Voilà. Mais quand ces miracles partent, est-ce que Dieu change ? Non ? Le problème, c'est que nous, on veut rester dans ces miracles, et du coup, on n'a pas appris la discipline, on n'a pas appris la foi, on n'a pas appris la persévérance, on n'a pas appris parce que on est dans un spectacle qui est super, quoi. Hein, Dieu qui agit, c'est formidable. Mais c'est pas le christianisme est normal. Le christianisme normal, c'est que Dieu agit exceptionnellement, et tant mieux s'il y a des réveils, il faut prier pour ça. Mais s'il n'y en a pas, Dieu ne change pas, et nous devons continuer à être des témoins dans ce monde. C'est toute la difficulté. D'ailleurs, Jésus, ce qui a troublé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était troublé, parce que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Donc il a été utilisé comme un prophète puissant en son temps. Et à un moment donné, il a eu des doutes. Et en prison, il a dit, mais est-ce que c'est vraiment le Messie ? Il a eu des doutes. Et Jésus a dû envoyer des disciples pour lui dire, mais oui, voilà, regarde ce qui se passe, voilà, il y a des miracles, etc. Pourquoi ? Ben parce que Jean-Baptiste, lui aussi, comme dans son temps, il était persuadé que Jésus était venu pour juger. C'est-à-dire pour baptiser d'eau, il a dit, il vous baptisera d'eau, de repentance, donc changer de vie, et de feu. Le feu, c'est le jugement. Donc il s'attendait à ce que Jésus juge Hérode, juge Pilate, juge César, juge les choses de ce monde, quoi. Et en fait, il ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce que lui-même était l'agneau immolé qui a été jugé par son père. Et ça, vous voyez, c'est un paradoxe. Et ce n'est pas accessible à la compréhension humaine, parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas simple blanc-noir. C'est pas bon mauvais. C'est simplement que c'est complexe. C'est que il fallait un sauveur qui d'abord expie les péchés à la croix et qui ensuite viendra pour juger. Et ce temps, on l'attend. Le jugement viendra. Il n'est pas annulé, le jugement des hommes et des femmes devant Dieu. Sauf que là, Jésus devait venir à un jugement. Et ça, Jean-Baptiste même l'a pas compris. Et Jésus a dû intervenir pour le rassurer. Lui-même a été mis en prison parce que il a dit à Hérode, bah voilà, tu as épousé la femme de ton frère, c'est pas toléré après la loi juive, etc. Et il a été mis en prison pour être décapité. Il attendait ce que Jésus puisse le délivrer. Oui, c'est le jugement par rapport à cette injustice dont il est l'objet. Donc il ne comprenait pas. Et nous, beaucoup de choses, on ne comprend pas. Pourquoi le coronavirus attaque les chrétiens, etc. Il y a des églises qui disent non, ça ne nous atteint pas. Enfin, vous avez tout entendu, tout est son contraire. Eh bien, parce que les chrétiens, souvent, sont dans une logique dualiste. Dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est blanc, ça c'est noir. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a aussi une eschatologie, c'est-à-dire il y a des choses qui se feront en leur temps. Et le jugement viendra, et c'est ce jugement qui va être le retour du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas nous attendre à se voir établir la justice aujourd'hui. Tout le monde demande justice, avec l'histoire de George Floyd, etc. Mais cette justice, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister dans ce monde. C'est Jésus qui est la justice. C'est Jésus qui a payé, parce qu'il est devenu cette injustice que nous sommes dans la rébellion, et il a établi la justice. Lui seul peut établir la justice. Et au sein de l'Église, alors je vais terminer pour vous montrer un petit peu le défi de l'Église évangélique aujourd'hui, qui est le défi qui a toujours été celui de l'Église de tous les temps. C'est d'essayer, par soi-même, surtout en période où il n'y a pas le réveil, de prendre un pouvoir. Le pouvoir, alors... la capacité de faire des miracles, la capacité, par exemple, la proclamation, comme si la proclamation allait faire agir la main de Dieu. Parfois, il faut proclamer. Parfois, il faut proclamer. Voyez-vous ? Il faut rester souple, entre les mains de Dieu, et ne faire que ce que nous voyons faire au Père. Mais il n'y a pas que des proclamations. Bien sûr, Jésus a dit au vent, « Arrête-toi ». Mais c'est pas parce que il a dit arrête-toi qu'à chaque fois nous on dit arrête-toi que le vent va s'arrêter, voyez-vous. Là, ce serait, je dirais, un début de sorcellerie, un début de manipulation des éléments. Donc voyez, on peut très bien chercher un pouvoir que seul Dieu doit avoir, et nous devons être soumis à sa volonté. Donc la tentation de l'Église, surtout en période entre des réveils, de prendre un pouvoir et d'agir. Et dans l'Église, c'est le cas des évêques. Alors, je vais rapidement rappeler ce que c'est qu'un évêque, qu'on soit d'accord sur les termes. Le leadership dans l'Église, c'est un élément qui a toujours posé problème. À tel point que quand moi je me suis attaqué à ce problème pour cette église ici, on m'a dit de toute façon il n'y a pas de modèle qui existe dans le Nouveau Testament, on peut faire un peu ce qu'on veut, etc. au niveau du leadership. J'ai dit tiens, c'est étonnant. Alors effectivement c'est complexe, je suis d'accord, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il n'y a pas de modèle. Il faut bien comprendre ce modèle. Donc le leadership dans l'église, c'est que il y a deux types de leadership. C'est le leadership de gouvernement, donc de gouvernement, conduire les choses, diriger, hein, c'est tout des synonymes. Le corps local et de l'État ecclésial. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'Église est une mini-nation qui a des frontières, qu'il y a des choses qui sont définies comme dans une nation, et ce qu'on appelle ça un état de l'Église. Eh bien, il y a deux types de personnes. Il y a les anciens qui sont un titre honorifique. Ancien veut simplement dire quelqu'un de sagesse, quelqu'un qui a accumulé un certain nombre de capacités, on peut faire confiance de la vie, etc. C'est pour ça souvent, c'est un peu un âge, mais il peut y avoir des très jeunes qui ont une grande sagesse. Hein. Bon, c'est pas lié à ça. C'est lié à la capacité de diriger des choses avec sagesse, un peu comme Salomon, il était très jeune quand il a eu, c'est un don aussi de la sagesse, hein. Mais il faut de la sagesse pour être ancien, pour gérer des problèmes complexes. Donc il y a les anciens, et à l'intérieur, donc c'est un titre plutôt, un titre honorifique, ancien, donc derrière vous pouvez mettre ancien, qui a une capacité de management, un ancien qui a une capacité de gérer des projets, etc. etc. Et il y a un titre qui s'appelle épiscope, épiscope c'est évêque, qui est une fonction de surveillant. Le mot épiscope, c'est dire surveillant. Surveillance de l'église locale, c'est-à-dire veiller sur, un peu berger, hein, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que dans cette église, on a adopté le mot superviseur, parce que surveillant, tout le monde a dit, ouais, ça fait surveillant général, ça renvoie à une notion qui n'est pas très noble, hein. Mais bon, ça aurait été mieux surveillant. Mais bon, c'est superviseur qui renvoie à la même réalité. Donc dans le gouvernement de l'église locale, il y a les anciens et les diacres. Les diacres qui ont une fonction plutôt d'aspect pratique, qui travaille en lien avec les anciens. C'est un gouvernement qui agit de concert. Donc ça, c'est la définition du Nouveau Testament. Et c'est quand même très simple, hein, quand vous le ramenez. Et ça, on le trouve partout dans les créations d'églises que Paul a établies, ou Pierre ou d'autres. Et le deuxième type de leadership, c'est l'édification. Gouvernement, édification. Édification spirituelle. Édification dans la foi, édifier, voilà. Donc ça, c'est pas une direction coercitive du gouvernement, etc. C'est le corps spirituel. Et là, il y a cinq ministères. C'est Éphésiens 4, c'est apôtres, prophètes, etc., etc. Et aussi, dans 1 Corinthiens, il y a d'autres ministères, dons. Donc ça, c'est des dons qui sont donnés. Les anciens, c'est plutôt des qualifications, anciens et diacres, des qualifications naturelles qui ont été portées par le poids de l'expérience, etc., qui étaient mises au service du Seigneur dans l'Église, et l'édification spirituelle, qui est une connaissance approfondie, mais par grâce, qui est donnée par le Seigneur. Voilà, le POA donc a opté pour cette autonomie de fonctionnement locale. Comme je le disais, l'Église est d'abord locale, avec une dépendance à l'Église universelle au travers des liens qu'on a. Un gouvernement composé d'anciens et de diacres, donc avec des pouvoirs, pour pas que les pouvoirs justement puissent monter à la tête des anciens. Donc des pouvoirs répartis dans quatre offices qui sont présidence, premier ministre ou pasteur opérationnel, qui sont dans le secrétaire général et superviseur général, qui est évêque. Et l'édification spirituelle qui est confiée à des pasteurs enseignants qui sont attachés à l'église, mais on pourrait très bien être attaché à différentes églises pour apporter la parole, apporter l'édification spirituelle, ce qui est le cas d'ailleurs dans RNC, d'apôtres, prophètes, etc., qui eux, naviguent entre différentes églises. Voilà, c'est juste un rappel. Parce que là, il y a une dérive des églises qui a toujours existé et qui amène à des divisions. Et aujourd'hui, on est dans une crise évangélique qui est dans ce sens-là. Un exemple de compromis, c'est la polarisation, la politisation de l'évêque, du poste d'évêque, du poste de surveillant ou de superviseur. Pour éliminer la contradiction entre la religion et la politique séculière, avec les gens avec lesquels on travaille dans le séculier, qui ont un pouvoir et que les évêques veulent partager. Alors je vous montre rapidement l'histoire de cette politisation qui aujourd'hui continue d'agir dans l'Église actuelle. Au 1er siècle, jusqu'au 4e siècle, ce qu'on appelle l'Église primitive, l'Évangile est apolitique. La politique est totalement séparée, d'autant plus que souvent il y avait des persécutions des chrétiens. Il n'y avait pas question que l'Église fasse un compromis avec le politique. Par contre, à partir du IVe siècle, il y a eu cette erreur de politisation de l'épiscopat. Et toute la partie gauche, eh bien, est confrontée à des schismes réguliers, des divisions entre ceux qui veulent garder l'évangile, qui sont l'évangile du Seigneur, qui n'est pas mélangeable avec le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Et donc, dans cette catégorie à droite, ce sont des évêques, la partie des surveillants qui sont apolitiques, qui ne veulent pas justement ce mélange. Alors rapidement, je montre que il y a eu des évêques qui ont commencé à partir du IVe siècle à diriger des églises d'une région, de toute une région, la Cappadoce, la Macédoine, etc. Donc des évêques, ce qui n'était pas le cas d'église primitive. Et donc, ils ont commencé à vouloir diriger ces églises locales d'un point de vue de domination, de direction, etc., et en lien avec le pouvoir politique. Du 6e au 11e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la pentarchie. La pentarchie, c'est 5 gouvernements. Il y a eu 5 grands gouvernements d'évêques. Il y en a eu un à Rome. Il y en a eu un à Constantinople, donc aujourd'hui c'est, comment ça s'appelle, Constantinople, Istanbul, voilà, parce que c'est passé à Istanbul. Donc il y avait des évêques qui dirigeaient, qui voulaient la domination universelle, donc mondiale à Rome, d'autres à Constantinople, Istanbul, d'autres à Alexandrie, c'est en Égypte, hein, c'est, voilà, d'autres à Jérusalem, et d'autres à Antioche. Donc vous voyez, déjà, il y a eu des conflits de pouvoir politique des évêques qui dirigeaient des églises. Donc, vous voyez, là déjà, on n'est plus dans le royaume de Dieu, et pourtant c'est ce qu'a vécu l'Église. Au point où dans cette pentarchie, on appelle ça le pouvoir des cinq capitales, donc que je viens de citer, il y en a eu une qui est allée plus loin que les autres, ça s'appelle l'Église catholique, où le pape à Rome, a pris le nom de Maximus, Pontifex Maximus. Ça veut dire quoi? C'est le pontife maximum. C'était le titre de l'empereur de Rome. L'empereur de Rome qui a chuté, eh bien, c'est le pape qui a pris son nom, sa puissance, son pouvoir, etc., qui est un pouvoir temporel. Au Vatican, il y a des ambassadeurs qui sont dans toutes les ambassades politiques du monde entier, qui sont dans le politique, et il y a la partie spirituelle, la partie des évêques, qui sont des évêques qui dirigent l'aspect liturgique, l'aspect spirituel, et d'autres qui sont, s'appellent les nonces apostoliques, hein, qui sont dans le pouvoir politique. Donc Rome a pris un peu l'ascendant, hein, sur toutes ces 5 capitales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont commencé à avoir le pouvoir sur le reste. Et ça donnait des schismes, c'est-à-dire des séparations, des divisions. Première division, c'est en 1054, 11e siècle, c'est les orthodoxes qui sont partis. Les orthodoxes, ils ont dit non, là, on n'est pas d'accord. Sauf que eux, ils continuent à diriger des régions. Hein, on appelle ça les patriarches, hein, Moscou, patriarche de Constantinople, etc. Ils ont continué, mais ils n'ont pas gouvernement mondial. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est la tendance. C'est la tendance que l'Église elle peut avoir. Au XVIe siècle, il y a eu le schisme des protestants, hein, qui eux aussi ont dénoncé le pouvoir du catholicisme, donc ils sont sortis de devenir protestants. Mais eux aussi, aujourd'hui, ils ont encore des superviseurs ecclésiastiques de région. Il y en a 2 en France. C'est le pasteur de Mantes qui m'a appris ça, parce que lui, il était luthérien. Il y en a 2 sur la France, elle est divisée en 2. Il y a 2 superviseurs ecclésiastiques qui dirigent les églises luthériennes, par exemple. Et ensuite, au XIXe siècle, il y a eu le schisme des évangéliques. En 1848, les évangéliques se sont réunis à Londres. Ils ont dit, on ne peut plus rester dans l'église protestante, parce que effectivement, il y a la collusion entre les évêques ecclésiastiques et le pouvoir temporel, donc il y a séparation entre l'Église et l'État. Et la première église évangélique qui est née, c'est celle de Melun, enfin, dans la mouvance de Melun, qui s'appelle les églises libres. Libres parce que justement, ils voulaient être libres de ce compromis avec l'État. Et aujourd'hui, le XXIe siècle, on est à nouveau devant une crise ou les évangéliques eux-mêmes, eh bien, vont dans ce sens et on assiste à un nouveau schisme. Alors, les évangéliques, c'est plus difficile à discerner parce qu'il n'y a pas de regroupement officiellement mondial. Hein. Donc, c'est plutôt des mouvements évangéliques différents qui vont, certains, chercher à faire du restaurationnisme, restaurer l'Église, le pouvoir de l'Église, et surtout des Américains qui considèrent que les Pilgrims Fathers qui sont venus aux États-Unis, l'Amérique devrait être chrétienne et c'est pas normal qu'elle n'est pas chrétienne, etc., etc. Bon, c'est tout ce mouvement-là. Alors, je présente maintenant à droite tous ceux qui veulent rester fidèles à l'Évangile, à l'Église primitive. Ce sont les Pères du désert. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire les Pères du désert en Égypte en particulier, qui ont justement cherché à ne pas rentrer dans ces compromis. Les Vaudois, Valdo, qui à Lyon a créé les Vaudois, hein, qui est absolument extraordinaire comme mouvement. Ensuite, je vais très vite, hein, c'est les Ménonites, avec Méno, c'est un prêtre catholique qui est devenu évangélique en Hollande, qui a créé les Ménonites, qui aujourd'hui existent encore comme mouvement évangélique. Il y a le piétiste, donc ceux qui voulaient chercher dans l'Église luthérienne plutôt la piété personnelle qui avait disparu. Les méthodistes, donc Wesley. Les baptistes, qui eux aussi sont revenus à une séparation avec l'État. Les pentecôtistes, qui ont d'ailleurs été rejetés, hein, par, d'ailleurs même l'Église en Allemagne a sorti un papier pendant la période pré-nazie où il disait que les pentecôtistes sont sataniques. Hein, voilà, parce qu'ils parlent en langue, parce que, etc. Voilà. Et je pense qu'ils se sont mis une malédiction qui a permis effectivement à Hitler aussi de mettre la main sur l'Église. Et les conséquences hein, à ce que l'Église fait. Hein. Mais les pentecôtistes, depuis l'origine, voilà, voulaient rester simplement un mouvement basé sur l'Écriture. Et aujourd'hui, donc je fais un saut très rapide aujourd'hui, il y a le mouvement de Lausanne. 1974, qui a été créé par Billy Graham et John Stott, qui à l'époque était le gouvernement de la reine d'Angleterre, qui est un théologien extraordinaire, et tous les deux avec tout un mouvement à Lausanne, en Suisse, ils ont créé ce mouvement en 1974 pour restaurer l'Évangile tel qu'il doit être proclamé aujourd'hui. Il y a eu les déclarations de Chicago qui ont duré 10 ans, de 1978 à 1986, ça a commencé en 1976 je crois, 10 ans où les évangéliques ont voulu déclarer que la Bible est sans erreur et qu'on peut s'appuyer dessus parce que la Bible a été intégrée par des mouvements de séparation, de sécularisation, etc. Et aujourd'hui, c'est TGC. Alors, TGC, c'est The Gospel Coalition, c'est-à-dire la coalition d'évangile, qui a été créée aux États-Unis par Timothy Keller et Don Carson et John Piper, etc. Sur, je vois, 47 pays, c'était décliné, dont en France, à Évangile 21. Avec Olivier et Michel, on devait aller à un séminaire Évangile 21 à Genève, qui a été annulé à cause du corona, et qui, justement, met en place des ressources qui restaurent l'Évangile tel qu'il devrait être, et non pas mélangé avec l'Évangile américain, qui est « The American Gospel », qui veut pactiser avec le monde, avec le pouvoir de ce monde. Il y a un prix à payer. Je voudrais terminer, parce que le temps qui m'est imparti est déjà passé. Nous sommes, d'après Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes une nation sainte. Trois choses qui sont paradoxales. Un sacerdoce royal, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous le rappeler. Et si quelqu'un ne respecte pas ce temple, eh bien, il blasphème Dieu directement. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous portons et où nous mettons les pieds, ce que nous faisons, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sacerdoce royal, un peuple racheté, rachetés, mais comme nous sommes imparfaits, nous devons exercer le pardon. Et Jésus a appris à ses disciples qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de limite. Vous ne pouvez pas dire « Ah, maintenant j'en ai marre, j'ai pardonné assez ». Non, le pardon, ça fait partie du peuple de Dieu et de l'imperfection dont nous sommes capables. Et dernier point, c'est une nation sainte. Comme je le disais tout à l'heure, une nation n'existe que parce qu'il y a un État, l'État-nation. L'État, c'est la forme juridique d'une nation et l'État, c'est la capacité de gouverner. Et nous sommes des serviteurs-leaders. Ceux qui dirigent doivent être des serviteurs, serviteurs-leaders. Dans le monde, il y a un État, mais il a de la police. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, donc ils mettent la police au service. Et vous voyez ce que ça donne quand il y a des policiers racistes ou autres, voilà, ils sont livrés à leurs instincts, et ça donne ce que ça donne. Mais les serviteurs dans l'Église doivent être absolument des serviteurs. Ils ne doivent jamais utiliser une domination. Ils doivent jamais utiliser, et moi je suis très très attentif à ça avec Michel, je ne vais pas dire que je suis parfait, mais je sais que je serai jugé là-dessus devant Dieu, quand je serai devant le trône de Dieu. Est-ce que tu as été serviteur, au service ? Alors c'est parfois, hein, dans l'Église, on est un peu énervé, mais il faut avoir la patience de rester serviteur, hein, et de ne pas chercher utiliser le pouvoir. Il n'y a pas de police dans l'Église, par contre il y a la discipline. Et il y a l'exclusion, il y a l'excommunication. À un moment donné, on ne peut pas garder, comme il n'y a pas de police, eh bien, des gens qui ne veulent pas juger. Donc on fait, voilà, on prévient et on a tout simplement l'occasion de dire, bah, écoutez, il y a d'autres manières que vous pouvez chercher ailleurs, mais ici on ne peut pas accepter ça parce que il y a des limites. Et Calvin, d'ailleurs, a appelé son manuel de discipline. Voilà. Mais nous, discipline, aujourd'hui, le mot passe plus trop bien. N'empêche qu'il faut que la discipline soit exercée. Voilà, je termine là. Je n'ai pas tout à fait développé tout ce que je voulais, mais c'est pour montrer qu'aujourd'hui, on est à nouveau devant un schisme possible au niveau des évangéliques, il faut en être conscient et prendre position et dire non, nous ne voulons pas de compromis avec le monde, nous ne voulons pas utiliser le pouvoir, même le pouvoir spirituel. Et d'ailleurs Jacques Poujol, qui a écrit un petit livre sur les abus spirituels, eh bien on parle des pasteurs qui sont dans l'abus spirituel. Ça, c'est l'utilisation, non pas de serviteur-leader, mais de leader-serviteur. Vous voyez ? C'est-à-dire on inverse les choses. Et ça, c'est absolument pas toléré d'après la parole. Et ça donne des mauvais fruits dans l'Église. Nous devons rester des serviteurs pour que dans l'Église, il y ait la paix. Pour que dans l'Église, il y ait une harmonie, pour que dans l'Église puissent se développer des fruits qui soient dignes du royaume. Et ça, ce n'est pas facile parce que nous sommes imparfaits, parce que nous cherchons un pouvoir qui ne nous est pas encore donné. Le jour où le mal sera détruit, sera incarcéré, hein, je dirais spirituellement, Satan ne pourra plus rien faire, ce sera différent, nous serons totalement libérés. Et ce temps va venir, nous le croyons, mais en attendant, soyons sur nos gardes et restons sur l'Évangile, l'Évangile pur, l'Évangile authentique. Et je vous encourage à chercher sur Internet plutôt des ressources sur TGC E21 qui sont garanties parce qu'il y a des théologiens derrière qui veillent à ce que l'Évangile reste fidèle et que sur ces déclarations de Chicago qui ont duré 10 ans avec les meilleurs théologiens qui existent dans le monde entier, ils ont travaillé à cette question pendant 10 ans pour établir ces déclarations. Je vous invite à les lire, ça vous édifiera sur vraiment l'évangélisme qui doit rester l'Évangile de Jésus-Christ. Et je plaide pour ça, pour que dans les années qui viennent, cette Église puisse rester fidèle à l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, afin que, Seigneur, ce culte, qui est un culte d'ouverture à nouveau pour cette région, pour cette localité dans laquelle tu nous as placés, cette Église puisse être remplie d'hommes et de femmes, de chrétiens qui ne cherchent pas de compromis avec le monde, qui, malgré leur imperfection, qui sont peut-être attirés par cela, puissent résister à ses pressions aujourd'hui et puisse rester fidèle à l'Évangile tel qu'il a été donné par Jésus et par les apôtres. Seigneur, nous te prions pour cela, afin que tu nous fasses cette grâce et que Pierre-André qui va venir et que d'autres qui viennent puissent rester fidèles à cet Évangile. Parce que c'est cet Évangile qui libère, c'est cet Évangile seul qui apporte les nouvelles naissances, c'est cet Évangile qui peut vraiment faire éliminer l'ennemi de nos âmes qui veut nous perdre. Seigneur, tu nous bénis, tu nous gardes, nous le croyons dans le nom précieux de Jésus. Amen.